C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
C'est le moment d'Astroval. Il y a quelqu'un qui dit, Valérie, tu parles jamais de balance, mais je veux juste préciser à Bianca. Non, non, la fois des psychopathes, j'en avais parlé. Je pense que c'était les premiers, je me souviens.
Ça dépend, hein. C'est vraiment l'astrologie qui me parle.
Ouais, ben, exactement, exactement.
C'est les signes du zodiaque, je ne décide pas ce qu'ils me disent.
Bon matin, Astroval.
Bon matin, salut. Aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a certains signes astrologiques qui creusent comme ils respirent. Et donc, j'ai le top 5 de ces signes astrologiques-là. Et en passant, ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là veulent avoir de la sexualité. Là, c'est ce que les astres me disent. Ouais, okay. C'est vraiment juste une question de cruising.
Okay.
Cinquième position, le lion. Le lion est le dragueur par défi. Pourquoi? Parce que le défi, ça représente la conquête. Pour lui, là, le lion, c'est un individu de caractère. Mmh. Puis même des fois, quand il va aller cruiser, c'est uniquement par égoïsme. Parce qu'il veut se sentir apprécié. Il veut voir que l'autre personne est comme allumée par son crousage. Il veut pas nécessairement nouer de relations, mais chaque fois, c'est un acte délibéré qui veut faire en sorte qu'il va se flatter l'ego lui-même.
Ah, on entend donc, wow. C'est que le lion est un crosseur.
Ben oui.
Le lion est un pas pire crosseur.
Non, c'est un auto-crosseur.
Oui, c'est ça.
C'est un auto-crosseur, effectivement.
Il s'auto-crosse.
Oui, tout à fait. Quatrième position, le Verseau. Le Verseau est le dragueur relationnel.
Oh.
Ce qu'on dit, c'est que le Verseau est caractérisé par sa légèreté.
Oh.
Fait qu'il veut pas nécessairement être entier dans sa relation. Il veut juste comme faire en sorte que tout le monde le trouve beau.
C'est un beau one night, le Verseau, on dirait.
Oui, exact. Ça, d'ailleurs, le Verseau est un des signes les plus sociables du zodiaque.
Ah bon?
Fait qu'on dit que de par sa sociabilité, tous les gens qui sont nés sous le signe du Verseau sont dragueurs parce qu'ils se prennent de manière subtile.
OK.
Fait qu'ils vont en toute en légèreté.
Des traîtres.
Ils tombent partout dans leur piège.
Oui.
C'est des traîtres.
Troisième position des signes astrologiques les plus cruiseurs, le Sagittaire.
Hein?
Le Sagittaire, il est dragueur pour sortir de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que les motivations sont souvent pas la conquête amoureuse. Règle générale, c'est pas ça. Encore moins l'assouvissement des besoins sexuels. C'est vraiment prouver qu'ils sont capables de parvenir à leur fin. C'est comme des joueurs, les Sagittaires.
Okay.
Fait qu'on dit, ils vont pas abandonner facilement la partie. Ils vont continuer. C'est comme une espèce de jeu pour eux
ils
autres.
Ils vont gambler. Des fois, ils vont cruiser quelqu'un, peut-être au-dessus de leur ligue, pour s'essayer.
Pour s'amuser, pour pouvoir en profiter. La deuxième position, le Gémeaux. Le Gémeaux est dragueur par peur de la routine. On dit qu'il est constamment à la recherche de nouveautés. La routine, pour lui, c'est inacceptable. À cause de ce trait-là de caractère, il va rarement connaître une relation amoureuse qui va durer longtemps dans le temps. Fait qu'il va comme s'abandonner à l'art de la séduction et s'assurer que, mettons, sa communication, son charisme passe toujours bien. Il va s'assurer d'être toujours au sommet de la pyramide des cruiseurs, le Gémeaux.
Ah ouais?
Oui. Et je termine avec les personnes qui ressentent le plus le besoin de plaire à tout prix.
Les cancers.
C'est le Bélier.
Hey!
Bélier. Ouais. Fait que nous autres, on n'est pas là, là.
On n'est tous pas là.
Vous autres, les auditeurs, vous êtes peut-être là.
Le Bélier, c'est le dragueur conquérant. On dit que associé au Bélier, c'est l'âme du conquérant. Et donc, ça lui permet d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et au bout de ses rêves, c'est de savoir chacune des occasions qu'il rencontre pour séduire une personne. Mais ça devient son petit rêve. Il y va. Et il fait. On dit que la plupart des personnes nées sous le signe du Bélier aiment tester leur pouvoir de séduction, eux aussi, dans le but de flatter leur ego.
Avant que tu donnes la réponse,
ouais.
Annie Lalande a écrit « Les Béliers sont sûrement là-dedans parce que les autres, c'est des petits cruiseurs. »
Ah ben voilà. Alors, tu avais raison. C'était le top 5 des signes les plus cruiseurs par Astroval.
Merci, Astroval.
Merci,
ça
Astroval.
Plaisir.
Nous voilà guidés pour le reste de la semaine.
Oui. Bonne semaine.
Le podcast Debout les comiques.
Et là, on a vécu un moment magique. Vraiment, hier, à C'est quoi, avec notre idée de fou de rendre hommage à Michel Louvain en l'amenant, en amenant La Dame en bleu, cette fameuse chanson mythique-là, au numéro 1 du 6 à 6. Et vous êtes très, très forts, les auditeurs. On va
c'est
vous
fou.
Le prouver à 6h48. Vous allez voir, moment magique.
Sinon, tout de suite, Martin est absent ce matin, Martin McGuire, et j'ai décidé de vous raconter un petit moment sportif qui s'est passé dans un match de baseball. Vous le savez, aux États-Unis, les spectateurs sont admis dans certains stades maintenant. Il y a un un minimum ou un maximum dépendant de l'État. Les Dodgers de Los Angeles jouent un match à Los Angeles contre les Rockies du Colorado. Et il y a un frappeur des Dodgers, Justin Turner, qui lui, au bâton, reçoit le lancer à son goût. Il frappe l'autre bord de la clôture. Le problème, c'est qu'il y a un fan qui reçoit la balle, mais sur lui vraiment. Il finit par récupérer la balle, mais entre lui et la balle, il y avait son assiette de nachos avec du fromage dedans. Et il s'est fait splasher de nachos et de fromage. Fait que son hoodie est plein de fromage, au point où il y a quelqu'un qui est assis à côté de lui, qui récupère une nachos puis qui prend du fromage sur son linge.
Ben
écoute,
non.
Direct, il y a une vidéo de ça. C'est drôle au bout. Mais là, le frappeur des Dodgers, lui, il se rend compte de ça. Quand il fait le tour des buts, il voit bien le gars dans le champ, puis le gars qui a ça, mais il a tout le devant jaune-orange. Et là, Justin, j'oublie son nom, Colin, Justin Turner décide donc de faire un appel et il y a quelqu'un qui est descendu dans les bleachers, au champ centre, dans les estrades populaires là-bas, et qui s'en va voir ce partisan-là, puis ils disent, hey, écoute, Justin Turner qui vient de te frapper un circuit dessus, là, il te paye une autre assiette de nachos.
Oh,
et le joueur de baseball, il dit, voir comment il était orange, il dit, c'était sûr que c'était pas une assiette à 2$. Il avait pris la grosse affaire, fait que j'ai renvoyé la grosse affaire. Et les Dodgers sont pas en reste, parce que les Dodgers, quand ils ont vu ça, ils ont fait comme, hey, on peut pas le laisser. Avec le chandail plein de fromage, toute la gang. Fait qu'ils sont allés y offrir un chandail, un hoodie aux couleurs des Dodgers. Et ce partisan-là qui va se rappeler toute sa vie de cette balle-là qu'il a reçue dans les estrades pendant une game
c'est
de balle.
C'est écœurant. Mais là, c'est parce qu'une balle de baseball, il y a des coutures là-dedans. C'est sûr que le fromage s'est imprégné dans les coutures. Comme partisan, moi, c'est sûr que je lave pas à balle, là.
Ben
je l'essuie peut-être grossièrement avec des napkins, mais je la laisse intacte parce que là, elle vient de prendre une valeur de fou. Et même, j'irais même jusqu'à dire, mon hoodie, là, je le lave pas, là. Moi, je l'enlève dans une vitrine au temple de la renommée du baseball.
C'est sûr que tu vas voir comment ça vaut, mais c'est très, très drôle. Et il y a quelqu'un qui a fait le titre Nacho Man. Et ça m'a rappelé ce succès souvenir. Un succès souvenir de Village People.
Nacho, Nacho, Nacho.
C'est arrivé du côté de Los Angeles. Donc, c'était l'histoire de ce matin. J'ai eu honte, mesdames et messieurs. En fait, je me suis fait remettre à ma place, pas un petit peu. Et c'est Zach, hier, quand il est revenu de l'école, qui m'a rappelé cette anecdote-là.
Ta grande affaire de quel âge, déjà? 13 ans?
Ma grande affaire de 13 ans, bientôt 12 ans, bientôt 18, là. Zachary, hier, il avait mal aux jambes. Puis, je savais pas pourquoi. Il m'a expliqué pourquoi il avait mal aux jambes. Et ça m'a retourné dans un passé que j'avais réussi à oublier.
Le podcast Debout les comiques.
Mon Dieu, t'as tombé du nachos sur toi puis du fromage fondu. Qu'est-ce que t'as eu? Une balle dans mes nachos. Le gars, t'as une game des Dodgers puis il a reçu un coup de circuit d'en face. C'est de même que ça s'appelle. Qu'est-ce que t'as reçu, toi, à un événement sportif ou autre? Ça peut être un spectacle que c'était pas prévu. On va aller au téléphone. Il y a Patrick qui est déjà là. Salut, Patrick.
Salut.
Patrick, t'as reçu une rondelle au hockey pas mal solide à part de ça, là.
Ouais, une game des Voltigeurs de Drummondville. Fait que junior majeur, ça joue assez raide. Un slap shot, il a dévié sur le coin de la baie vitrée, mais vraiment là, il rentrait en onde, fait qu'il y avait comme pleine vélocité.
Ah!
Puis je l'ai vu s'en venir, je me suis juste tourné la tête, je l'ai reçu direct sur l'oreille.
Aïe, aïe, aïe.
Écoute, je saignais, c'était l'enfer. Puis j'avais un hoodie flambant neuf. Ça faisait 10 minutes, je l'avais sur le dos, il était plein de sang. L'infirmier qui est venu me voir, t'es correct? Maudit!
Hey, mais pour vrai, mais t'as pas eu de séquelles de ça, hein, Patrick?
Non, rien pantoute, finalement. Ça a bien été. Là. Il voulait que j'aille à l'hôpital même. Non, je m'envoie le restant de la game. Là.
OK. Mais...
faut que j'aille écouter le restant.
Hey, mais Caroline, quand même, ça doit saisir un peu. Merci, Pat, de ton appel, c'est apprécié.
Bye-bye.
Bonne journée.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Aïe, 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 un spectateur qui a reçu une balle, un coup de circuit au baseball, le match des Dodgers qui a été récompensé par le joueur qui a frappé le coup de circuit. Mais vous autres, vous avez reçu quoi puis à quel événement? Il y a Steve qui est patient en ligne, qui est là. Salut Steve!
Allô?
Steve,
allô?
Toi t'étais à un rodéo, c'est ça, hein?
Ouais, ben les monteurs de taureaux professionnels, là, PBR.
Ouais?
Il était passé à Montréal, puis c'est ça. Moi, j'étais là avec un de mes amis, ma blonde, tout. Fait que je pars, puis je sais pas, il faut me chercher une bière, j'en ai une à mon blonde, à ma blonde.
Ouais.
Fait que j'ai une bière dans chacune des mains. Puis comme j'arrive à mon siège, je viens pour m'asseoir, puis je reçois une motte de terre. Le taureau, il était en train de brûler en avant de ce que j'étais. Puis j'étais pas tellement haut, peut-être 5-6e rangée. Puis j'ai reçu une motte de terre chacun des pectoraux.
OK, la deux mottes de terre d'un coup, là.
Ouais, mais la motte de terre, en plus, chacune des mottes de terre que j'ai reçues a tombé dans chacune de mes bières.
Non!
Ouais. Hey. J'ai tapé 22 bières, ce truc-là.
Ah, hey, puis t'es-tu correct? Ça a dû faire mal, le taureau. Ça a de la détente quand même, là. Ça devait rentrer un peu.
J'avais un bleu sur chacun des becs.
Hey, my God! Quand même. Ben, merci de ton anecdote, oui. Steve. Ce taureau merci. Qui était visiblement contre l'alcool.
Visiblement. Hey, moi, j'ai jamais rien reçu dans un show. Jamais, jamais, jamais. Une fois, une balle de baseball sur mon dash de char qui était mal stationné
au
stade municipal de Québec.
Tu te demandais pourquoi j'ai une place à côté de la porte?
Eh bien, moi, je trouvais ça extraordinaire. Je prends le risque. À un moment donné, ils mettent des sound effects dans le stade quand la balle sort et ils font des vitrines qui cassent. Ben, la vitrine, c'était mon dash de ma petite Toyota Tercel. J'ai frappé deux filles en chasse à Grande Allée, puis j'ai reçu une balle de... Bon, bref.
C'est ton pare-brise. Ton dash, tu l'as pas pété.
En tout cas, même chose
ouais.
en avant, là.
Ouais.
Mais à un moment donné, j'étais à un show avec une de mes amies de filles au Grand Théâtre de Québec, là. Un gars qui s'appelle Cali, qui sonne de même.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Et lui, il pitchait rien pendant ses shows. Pendant l'entracte,
et ça
voit...
te décevait, ça.
Ben là... On voit son harmonica, sa scène pendant...
Non!
On s'est levé pendant l'entraque. On a prétexté... Écoute, on a déjà volé des quais dans une salle de quais. Bref, avec cet ami-là, j'ai volé beaucoup trop d'affaires. On a pris son harmonica puis on l'a volé. Sauf que qu'est-ce que tu veux faire avec une harmonica utilisée? T'sais, finalement, on s'en est débarrassé. J'ai honte de... Pourquoi je raconte ça à radio? Bref, j'aurais pas aimé recevoir par la tête son harmonica. Je suis allée la chercher moi-même.
Hey, moi, une seule fois dans ma vie, ça m'est arrivé à la quantité de spectacles que j'ai vus. C'était au Centre Bell en 2007. Le Sweet Escape Tour de Gwen Stefani et de Akon.
OK.
Fait que là, Akon, il arrive, fait un genre deux tunes avec Gwen Stefani. Et moi, je suis juste en haut de la sortie de scène. Et là, lorsqu'il finit la chanson, il fait la sortie. Et il lance la serviette dans les airs.
Sa serviette de chaud?
Oui, gracieusement.
Non.
Je prends la serviette.
Plein sueur d'Akon.
Ben, c'est ça. Sur le coup, j'étais vraiment contente. J'étais avec un de mes amis qui était comme, « Arc, c'est dégueulasse! » Là, j'étais là, « Ah, oh, c'est vrai! Oh, mon Dieu! »
Qu'est-ce que t'as fait avec?
Je l'ai écrit ça à terre. Je l'ai laissé à terre. Ah oh, ouais, j'étais à m'écœurer ben trop. J'étais comme pas capable, j'assumais pas. J'ai demandé aux gens autour, est-ce que vous la voulez?
Non.
OK, parfait.
C'est très drôle. Il y a Sylvain qui nous écrit sur la message texte. Il dit, durant un spectacle de Michel Barrette, il faisait son adieu à son personnage de IA et il faisait tirer parmi les spectateurs le fameux chapeau. Il dit, moi, j'ai pas gagné le chapeau. Finalement, j'ai gagné une balle de foin qui servait de support pour le chapeau.
C'est un peu décevant.
Et je salue Émile Arnois. Je lui donne le mot de la fin. Émile Arnois, pardon, qui dit, je te regarde de Valleyfield et Guillaume, le métier vierge qui était porte-parole, arrive en parachute. Il se pose à côté de moi. Il fait une photo en arrivant. Puis il met la main sur un couvercle de régate qui ferme ses doigts à Émile. Et je suis rendu, j'ai une cicatrice à cause de Guillaume le Métis Vierge que je salue ce matin. Tu es salué. Et comment t'as reçu Guillaume le Métis Vierge? C'est dur à battre en tabarouette.
Sinon, sur le Facebook de C'est quoi, j'en ajouterai pas plus, mais je salue tous les gens qui ont reçu un coup de pied quand ils faisaient dans le mosh pit en avant. du crowdsurfing, les mosh pits, là. Ils en ont reçu bien des affaires.
Le podcast Debout les comiques.
Hey, on me dit souvent que je suis one of the boys. Peut-être parce que j'ai fait du théâtre juste parce que je rêvais de jouer dans Jackass. C'est peut-être ça l'explication.
C'est ça ton but?
Ah oui, j'aurais tellement aimé ça. J'aime les univers de gars, puis surtout, j'aime explorer les gars, les univers de gars. J'aime
ça.
Les
gars,
non, j'aime les univers de gars. Et justement, je me suis découvert une toute nouvelle passion.
Ouais, tu
de
en
gars.
As parlé la dernière fois, la musculation, t'as mis.
Non, Martin.
Les hommes?
Non. C'est le passé tout seul. La musculation, c'est le passé, c'est fini. Je me suis blessée en essayant de lever des poids lourds. En fait, je me suis foulée une corde vocale à force de gueuler en levant des poids lourds. Donc, c'est derrière moi, les hummers. C'était trop haut, Valérie. J'avais l'air de te ressembler. J'avais l'air d'avoir 4 pieds 2.
Personne veut ça.
Personne
veut ça.
Aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle passion de gars. Le paintball.
J'ai sorti avec mes chums.
The boys! Premièrement, bonne nouvelle, le paintball est ouvert même pendant la pandémie. Alors, si vous avez pas pu serrer votre grand-mère dans vos bras depuis un an, au moins, vous pouvez y tirer dessus.
C'est vrai?
Oui!
C'est pas vite, une grand-mère.
Mais
là.
Non! Ah non, je l'ai tiré plein de fois. On a joué 3 games. Je l'ai tiré 3 fois. Elle est morte, la tabarde. Excusez-moi, je m'en porte.
Ça va trop loin.
Le paintball se joue avec un masque full face, donc aucun danger de pogner la COVID. Des champignons d'en face, oui, mais pas la COVID. Le but du paintball, c'est de tirer sur les autres. Ça a l'air que c'est pas très boys d'utiliser ton gun à peinture pour essayer de peindre les nénuphars de Monet.
Non.
Non, c'est pas ça que tu fais.
Tu fais pas ça, tu tires sur le monde.
Pendant la partie, faut que t'enjambes des obstacles, que tu rampes, que t'élimines des adversaires. Ça m'a rappelé des bons souvenirs du Boxing Day. Au début, j'étais pas bien bonne. Là. Après 5 minutes, j'étais jaune, mauve, vert. Puis ça, c'était juste les bleus sur mes cuisses.
Ouais.
Mais un vrai boys, un vrai de vrai, ça monte pas que ça a mal. Fait que tu cries, ça a même pas fait mal. Même si t'as la voix qui shake comme René Simard qui chante l'oiseau. Là, ça a même pas fait mal. Au paintball, by the way, il y avait pas beaucoup de boys qui avaient la référence de René Simard qui chante l'oiseau.
C'était les plus vieilles.
Ouais, je comprends que vous compreniez. Bref, j'ai adoré mon expérience. En plus, dans le même complexe, on peut aussi faire du go-kart.
Oh, c'est
hot, le go-kart, c'est parfait pour ceux qui aiment combiner leur plus grande passion, soit avoir mal aux fesses et au cœur.
Ouais.
C'était extraordinaire. Et là, la semaine prochaine, je suis tellement emballée, je me lance dans une autre expérimentation,
ah oui?
Une autre passion de gars. Je vais conduire une Harley Davidson. Puis ça se peut même que je le fasse sans petit trou en arrière.
Ben ouais.
Le podcast Debout les comiques. Dans ta face, Cloutier. Prêt à affronter un comique? T'es pas game.
Allô, Caroline Séné.
Allô.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien, vous autres?
Ça va très, très bien. Hey, Caro, je ne veux pas mettre de pression sur tes épaules, là. Mais cette semaine, ça a été une grosse semaine pour Martin Cloutier. Il y a eu 4-4. Il a gagné à 4 reprises. Fait qu'on compte un peu sur toi pour détruire le sort.
Ben, on va essayer ça.
Yes. Ben
ça
oui, j'ai confiance. Alors, Martin est parti s'assourdir et pendant ce temps-là, Tammy, qu'est-ce que tu as ajouté?
Oh oui, juste parce que tu affrontes un gars tellement gros qu'à chaque fois qu'il prend sa douche, la mère est un petit peu plus morte. Eh bien, tu fais le plein de café avec Café Aga. Chaque approvisionnement comprend les capsules compatibles Nespresso Line Original ou K-Cups compatibles pour Keurig, le café en grains, le café moulu. Donc, t'as bien entendu, Café Aga produit tous les types de café pour tous les types de machines, sauf la Tassimo et la Nespresso Virtuo Line. Café Aga, une entreprise familiale québécoise de Laval qui existe depuis plusieurs décennies. Et si tu bats Martin ou si tu galises son pointage, alors on rajoutera à ça un Google Nest Mini à l'image de C'est quoi pour écouter C'est quoi partout et ne rien manquer.
Alors, Caroline, je te pose 5 questions. Tu as 30 secondes pour y répondre et tu peux dire pas si tu ne connais pas la réponse à la question. Est-ce que tu te sens prête?
Oui.
Ça tombe bien parce que on y va, Macaro. Nommez 2 des couleurs des 5 anneaux olympiques.
Le jaune puis rouge.
Quel est le 10e mois de l'année?
Novembre.
Combien y a-t-il de films Les Boys?
Pardon?
Combien y a-t-il de films Les Boys?
5.
Qui fut le premier ministre du Québec après Jean Charest?
Pause.
Sous quel nom de rappeur connaît-on Léo Fougère?
Pause,
je reviens à la question. Le premier ministre du Québec, on pourrait dire la première ministre du Québec.
Pas une Marois.
Yes, baby, c'est bon, Caro. Martin, tu peux revenir en studio?
C'est fait.
On fait attention, on dit plus rien.
Ça va faire ramasser, Martin.
Pour vrai?
Oh, oui, ça
arrive. C'est quand même assez rare, on va se le dire.
OK, arrête de te vanter, c'est parti.
Attends pas, c'est la réalité.
Nommez 2 des couleurs des 5 anneaux olympiques.
Rouge et bleu, mettons.
Jaune. Quel est le 10e mois de l'année?
Le 10e mois de l'année, c'est octobre, c'est le mien.
Combien y a-t-il de films? Les Boys.
Les Boys, il y en a 1, 2, 3, 4.
Qui fut le premier ministre du Québec après Jean Charest?
Après Jean Charest, ça a été Pauline Marois.
Sous quel nom de rappeur connaît-on Léo Fougère?
Quel nom de rappeur on connaît Léo Fougère?
Oui.
Fouki.
Ben oui! Colin!
Fougère qui? Fouki.
Ok.
Fouki gère.
Monsieur le juge, avant qu'on aille voir le pointage,
digère.
Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine.
Valérie, je vais te surprendre. Je fais fuck out!
Fuck out! Je fais fuck out! Je fais fuck out! Je fais fuck out!
Je fais fuck out! Ah, voyons, il y en avait un autre.
Oui, maintenant. OK, le score.
Le score, messieurs, dames. Monsieur le juge, combien de bonnes réponses pour Martin Cloutier?
C'est 5 bonnes réponses. Le score parfait, Valérie.
Et combien de bonnes réponses pour Caroline Sonnet?
J'ai accordé les boys, Valérie.
Oui, il était une fois les boys. Il y en a exactement. Plusieurs qui ont écrit sur la messagerie texte. Donc, ce serait le 5e film.
Oui, il y a dit, il y en a 4 au total, mais on pourrait considérer qu'il y en a un 5e, effectivement. Ouais. Alors, on lui a accordé les boys, ce qui fait en sorte que Caro a eu...
3 bonnes réponses, Valérie.
Oh. On lui a accordé, mais ça n'a pas été suffisant. Merci, Caroline.
Veut dire, Caroline, merci d'avoir joué avec nous. Mais ne t'en va pas tout de suite, Caroline.
Non, j'attends.
Parce qu'il y a quelque chose que tu vas mettre dans ta petite besace puis tu vas traîner avec toi toute la fin de semaine.
Oh non.
Oui. Dans ta face, Sonny!
Merci. Bonne journée à tous.
Merci à toi. Merci, Caroline. Bonne ça laisse la chance à quelqu'un d'autre. On va aller sur la messagerie texte avec une nouvelle question parce que j'hésite.
Non, ça va, Martin. OK. Nouvelle question. Lorsque la reine Élisabeth va décéder, qui deviendra roi d'Angleterre?
Ah.
C'est la question à laquelle je cherche la bonne réponse sur la messagerie texte.
Il a des oreilles.
J'ai-tu des chances?
Malheureusement,
j'ai des oreilles.
Non.
Ceci dit, textez-nous la bonne réponse. Sinon, mesdames et messieurs, on a des choses sérieuses à ça.
Je déclare le tribunal populaire ouvert.
Le Grand Prix de Montréal est peut-être sur le bord de se faire annuler. On attend cette nouvelle-là dans les prochaines heures, maximum les prochains jours, parce qu'il y a une décision qui est prise. La volonté du gouvernement du Québec, c'est que l'événement ait lieu. C'est rien de moins que le plus grand événement touristique au Canada. Et on espère que ça... En fait, on a peur que ça compromette l'avenir de l'événement s'il n'y avait pas lieu cette année. On verra. Mais moi, je veux savoir pour vous. Donc, il y a de l'argent supplémentaire qui est demandé. On pourrait le tenir.
Il faut sortir le cash pour que ça ait lieu.
C'est 6 millions qui est demandé pour maintenir l'événement en place. Demander. On demande aussi des accommodements pour les mesures sanitaires pour que...
Il faut juste préciser pour que je comprenne bien, les 6 millions qui sont demandés par les organisateurs.
Oui, exactement.
Tout à fait. C'est ça, là. C'est pas pour les dédommager. C'est pas pour réussir à faire l'événement, c'est pour les dédommager, eux
autres. Pour les dédommager.
À vrai dire, on le fait, mais on leur donne 6 millions de dollars parce qu'il n'y aura pas de public.
On le fait à huis clos. Il faut aussi amener des entorses à la santé publique parce qu'il y a 1300 personnes qui ne sont pas ici et qui sont le cirque de la F1 qui vont débarquer, plus des bénévoles qui vont s'ajouter, on aurait 2500 personnes sur le site et ça serait au début juin, autour du 13, du 11 au 13 juin, en fait, les dates qui sont prévues. Pour vous, là, avec ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est oui ou c'est non? Est-ce que vous annulez l'événement, quitte à peut-être risquer de le perdre, ou au contraire, vous voulez absolument pas perdre le plus grand événement touristique au Canada, c'est le même que ça s'appelle?
Moi, Martin, tu me dis que je sauve 6 millions puis que j'évite peut-être une contamination à cause des variants, t'sais, une contamination majeure. Il y a des bénévoles qui travaillent pour la F1. Il y a ces gens-là qui arrivent de l'étranger. Tout ça. Tu me dis, j'évite de payer 6 millions et j'évite une propagation du virus. Ma réponse, c'est... Mais je le veux pas. Je le veux pas. La F1, laisse faire. Passe ton tour.
Moi, je sais que c'est souvent décrié. Moi, je pense que toutes les industries ont eu de l'aide du gouvernement. Pourquoi pas l'industrie touristique, cet événement-là aussi en particulier. Je suis pas contre cette idée-là parce que tout le monde en a eu. Mmh. Et donc, pourquoi eux autres seraient à part puis que non, ça c'est un argument. L'autre affaire, je suis pas tout le temps content des retombées que ça amène le Grand Prix avec le corollaire de la prostitution de ces affaires-là. Mais c'est de l'argent neuf, c'est de l'argent de visiteurs qui viennent aussi au Canada, puis c'est une vitrine importante. On a un privilège d'avoir ce Grand Prix-là. Est-ce que ça vaut ce qu'on nous demande? Est-ce que on le prend comme du chantage? Je veux vous entendre. On va continuer d'argumenter, Tammy, parce qu'on n'a pas fini, j'ai l'impression.
Oui, puis tu vois, sur le Facebook de C'est quoi, je suis en train de lire ça, puis je vais vous en reparler, là. Mais principalement, on a des noms sur le Facebook
de C'est quoi. Oui, probablement.
Non, mais je suis très surprise, parce que hier, quand le débat a vraiment, véritablement commencé, là, il y avait beaucoup de gens qui disaient, non, on le présente, on a trop peur de le perdre. Et sur la messagerie texte, il y a bien des gens comme Jonathan Rivard qui dit, moi, je suis un fan de F1, là, mais dirais, l'idée d'amener tout ce monde-là ici, l'idée de défrayer encore plus d'argent du public sans retomber direct, considérant le fait qu'il n'y aura pas de tourisme cette année.
La majorité des restaurants vont être fermés. Je veux dire, oui, les hôtels, mais...
Mais oui, mais on tue le plus gros événement touristique du Canada. On laisse-tu mourir ça ou bien non, on le préserve?
C'est pas vrai. Ils nous menacent de ça. Ils nous font ça chaque année. Ils nous font des peurs.
Il y a des grands prix qui ont disparu, Tammy. Il y a des grands prix mythiques qui ont disparu. Ça arrive qu'on change de place.
Non, un autre grand prix en Amérique du Nord.
Non, je sais qu'il n'y en a pas, mais il y en a eu à Indianapolis. Il a été à Toronto pendant longtemps partagé.
Il est rendu à Montréal. On offre une plateforme. On a de la valeur. Toujours de penser qu'on vaut rien.
Toujours de penser que c'est juste du chantage. C'est aussi une erreur, je pense, Tammy.
Peut-être. pense.
Je pense. Mais pour vrai, on est enflammé en tabarnouche. C'est vous autres qu'on va entendre. C'est vous autres qu'on va entendre au 790, c'est quoi? Le texto 96.9, 96.9. On va régler quelque chose tout de suite. Dans ta face l'outil, on a un gagnant, Valérie. À moins que je ne me trompe, Hugo Bisaillon est le gagnant du matin?
Absolument. La question, lorsque la reine Élisabeth décidera qui deviendra roi d'Angleterre, la bonne réponse était Prince Charles. Et c'est Hugo Bisaillon qui a eu la bonne réponse. Bravo, Hugo. Hugo, pardon, Hugo. J'ai fait une contraction de son prénom et de son nom de famille.
Ça faisait comme un personnage dans Le Seigneur des Anneaux.
Oui, genre...
Hugo, de la Terre du Milieu.
Totalement.
C'est notre gagnant ce matin. Sinon, la...
Ah, j'ai écrit un livre là-dessus.
Oui, exactement. Pas... C'est ton personnage principal, Hugo.
Le podcast Debout les comiques.
On est en plein débat. Oui ou non, on présente le Grand Prix quand même à huis clos avec une subvention qui est demandée pour l'événement. Une subvention supplémentaire parce qu'il y a déjà eu des investissements qui ont été faits par les paliers de gouvernement. On se lance la balle présentement. Il y a Louis-Vincent qui est au téléphone pour nous en jaser. Salut, Louis.
Salut, comment ça va?
Ça va très, très bien. Toi, pour toi, ce serait, oui, ce serait un placement profitable.
Ben écoute, c'est on investit dans cette course-là depuis des années parce que tu l'as dit là, l'événement le plus important au Canada d'un point de vue touristique. Mm-hmm. On vient de refaire les paddocks, on investit encore de l'argent là-dedans. Mm-hmm. Puis là, on décide, est-ce qu'on va faire un investissement supplémentaire? Regardons-le plus sur le long terme. On va faire un investissement, oui. On va les laisser gérer leur COVID à l'interne. Ils ont la même chose que la Ligue nationale. Ils ont des règles à l'interne. La dernière affaire qu'ils veulent avoir, eux autres, c'est une éclosion de COVID dans une écurie de course.
Mm-hmm.
Et partout sur la planète, ils font le F1. Il y a 24 courses cette année, je pense, ou 22. Partout sur la planète, ils ont adapté pour pas perdre l'événement, pour continuer d'amener cette économie incroyable là, qu'amène quand ils se promènent. Et je me dis, pourquoi on va tout arrêter ça? Parce que on va respecter. Oui, je suis d'accord. On a tous pris notre trou depuis un an. Moi, le premier. Puis je travaille en développement durable. Tu sais, c'est comme les gens vont dire, la F1 t'aime ou t'aime pas. Mais la Ligue nationale, elle, c'est correct. Walker, pas de problème. On peut leur donner des règles de COVID. Mais pas la F1 parce que la F1, c'est pas bon. Ça brûle du gaz. Puis c'est pas le fun.
Louis, ton c'est argument.
C'est tellement bon,
t'es
Louis.
T'es tellement musculé,
oui,
Louis.
Oui,
mon
vraiment,
Dieu,
bravo.
Tu joues dans la tête. Mais c'est pas juste ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est beaucoup de rassemblements de gens en même temps pour la F1. Là, tu sais, le hockey, ça se joue quand même en grosse bulle, mais en bulle pareil.
Merci, Louis, pour ton plaidoyer. On l'apprécie. C'est très apprécié.
Et j'adore des auditeurs de même. Pour vrai, ils me jouent dans tête. On va aller, pourtant, je pense pas en tout comme lui.
Je pense que Tania est un petit peu plus dans ton sens, ouais. Tania. On va l'entendre. Salut, Tania.
Bonjour.
Pour toi, là, c'est un gros nom, le Grand Prix à Montréal cette année. Hein?
Oui, parce que moi, je suis assez obsédée par la cohérence. Puis je trouve que ce n'est pas cohérent du tout de nous demander de réduire nos déplacements entre les villes à travers la province du Québec, mais de faire venir des centaines, voire des milliers de personnes de l'étranger.
Bon point.
Ouais, c'est trop risqué. Puis je pense aussi que on s'inquiète pour rien en pensant que si on l'annule cette année, il n'y en aura pas l'année prochaine. Écoutez, il y a tellement de gens tellement écœurés de rien faire. Et ça va juste amener plus de gens.
C'est sûr.
Mais c'est des arguments. Vous me touchez
Dieu,
ce matin.
Merci
beaucoup,
bon, merci, Tania.
Merci de ton appel, Tania. C'est apprécié.
Moi, je vais vous les donner. J'ai écrit sur un papier mes arguments. OK. D'abord, dans le contexte actuel, l'argument des retombées économiques, il n'est pas aussi fort. Ensuite de ça, la F1, pour moi, c'est un sport de luxe. C'est un sport de riches. OK. Moi, c'est ma perception. OK. Et je vais peut-être y aller fort, mais j'y vais pareil. Pour moi, de tenir un Grand Prix à Montréal dans le contexte actuel, ça signifierait encore que les riches ont un passe-droit, qu'à cause de leur pouvoir, ils réussissent à se faufiler dans les cracks. Parce que, comme dit Tania, c'est une histoire de cohérence. Pourquoi, oui, on peut faire des analogies avec le hockey, mais pour moi, c'est pas pareil. Une masse de gens de l'étranger qui viennent ici avec nos bénévoles, qui se mélangent, oui, peut-être avec des mesures strictes, moi, là, je comprendrais pas ça. Tu vois, il y a Dominique Labelle qui est sur le Facebook de C'est quoi, qui soulève un point qui est selon moi très important pour la suite du débat. Il dit, peut-être qu'on pourrait jouer la carte de la transparence. Il dit, le problème avec le Grand Prix, c'est qu'on connaît pas les détails de l'entente qui permet d'avoir le Grand Prix du Canada jusqu'en 2029. Est-ce que si on manque deux Grands Prix de suite ou deux tout court, on perd automatiquement le contrat? Parce que si c'est ça, l'argent du Grand Prix, on va en avoir besoin pour la relance économique dans les prochaines années pour le tourisme. Fait que si c'est ça, je dis oui. Mais autrement,
Je dis non. Fait que pourquoi ne pas dévoiler les clauses? Puis après ça, on décidera tout le monde ensemble.
On va le savoir dans les prochaines heures, en tout cas, si l'événement est tenu. Je suis content du débat ce matin. Ça a été respectueux quand même. Et vous êtes ébranlant d'un côté comme de l'autre. Heureusement, c'est les paliers de gouvernement qui vont trancher ça puis qui vont vivre avec la décision.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Après avoir échoué avec les courageuses, la comédienne Patricia Tulane intente une poursuite au civil de 1,6 million de dollars contre Gilbert Rozon, qu'elle accuse de l'avoir brutalement violé en 1994. Les poursuites des courageuses ont échoué autant au civil qu'au criminel. Et on se demandait justement ce matin si c'est quoi la différence en fait entre les deux. La nuance qui existe, on va en jaser avec Walid Hijazi, avocat criminaliste et notre ami. Salut Walid!
Attends les amis!
Merci d'être là, Walid. Écoute, tout d'abord, vas-y.
Mais c'est quoi la différence entre un procès au criminel puis un procès au civil? Peux-tu nous démêler tout ça, là?
OK, alors, premièrement, une poursuite au civil, c'est une personne en poursuit directement une autre. Alors, c'est une personne qui poursuit quelqu'un d'autre. Le criminel, c'est le gouvernement, c'est l'État qui accuse un suspect qu'on pense avoir commis un crime au nom de la société. Alors, c'est pas une poursuite individuelle, c'est l'État versus un individu. Alors, c'est pour ça que les fardeaux de preuve sont différents aussi. Hein. Au criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Je veux dire, l'enjeu, c'est la liberté. Si je suis coupable, je vais en prison. Alors, ça doit être hors de tout doute raisonnable. Au niveau civil, les enjeux sont... Je veux dire que c'est moins important, mais c'est pas la liberté. C'est en bout de piste, est-ce que je veux payer de l'argent de ma poche ou non. Alors, okay. Le fardeau de preuve est ce qu'on appelle selon la balance des probabilités. Alors, c'est pas hors de tout doute raisonnable, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute raisonnable. C'est selon la balance des probabilités, qu'est-ce qui est plus probable que moins probable, qui est plus crédible que moins crédible. Mm-hmm. Le fardeau de preuve, il est moins élevé, là.
OK. Mm-hmm. Mais Walid, si ça n'a pas marché avec le recours collectif des courageuses pour Patricia Tulane, est-ce qu'il y a plus de chances que ça marche de façon individuelle dans ce cas-là?
C'est une bonne question, hein. Puis on va voir comment ça va évoluer, là. Parce que c'est une affaire qui est assez complexe. Puis sans ça, le recours collectif, c'est bon, c'était déjà pas facile. Il y avait eu plusieurs déclarations publiques. Il y avait eu des rencontres entre les différentes plaignantes qui faisaient en sorte que la cause avait été un petit peu contaminée, là, pour se rendre en justice. Qu'on va aller en justice, faut que ce soit solide, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, de difficulté, de faiblesse. Alors bref, c'est une démarche qui avait échoué. Là, on a une poursuite individuelle. Alors le recours collectif n'avait pas été autorisé. Là, on va voir là, comment ça va cheminer, comment lui, Gilbert Rozon, son avocat va s'objecter et comment ça va être reçu par les tribunaux.
Est-ce que le fait que Patricia Tulane persiste, signe, tu sais qu'elle y va vraiment avec force depuis plusieurs années, ça peut influencer la juge, tu sais, la démarche globale qu'elle entreprend,
c'est solide là.
Ça non, en bout de piste, comment ça va se ramasser devant un juge là, ça va être l'une va témoigner, l'autre va témoigner, okay. Et quelle est la preuve la plus solide. Mais là on rentre dans un mécanisme assez complexe, là. On va pouvoir envoyer un subpoena, Gilbert Rozon va pouvoir être interrogé au préalable. Alors c'est pas comme s'il peut invoquer un droit au silence. Du moment qu'il va être contraint à témoigner, il va devoir répondre à des questions. Alors bref, mécaniquement parlant, c'est assez complexe, mais on est plus à armes égales que dans un contexte où c'est l'État qui accuse versus un individu qui peut invoquer des droits constitutionnels comme le droit au silence puis le doute raisonnable, justement.
Puis je veux juste qu'on prenne un pas de recul, mettons, dans la perception, Walid. Le fait que Gilbert Rozon ait été acquitté d'un procès criminel alors que Mme Charrette le poursuivait, on le sait, ça s'est arrivé avant les fêtes. Ouais. Est-ce que ça peut changer quelque chose, au niveau de l'apparence de justice? Il y a eu les courageuses aussi qui ont pas été autorisées à le poursuivre, mais qui ont quand même fait un battage. Est-ce que ça interfère dans le déroulement de ce procès-là et dans l'apparence de justice par rapport à la confiance à la population dans la justice?
Pour la confiance en la justice, il faut comprendre que chaque cas est unique et chaque cas doit être tranché selon les particularités qui lui sont propres. Ce que je ne souhaite pas comme avocat et comme individu, c'est qu'on veut rattraper une cause qu'on a échappée avec une autre cause. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et très certainement, un juge ne sera pas motivé par ça. Il ne va pas se sentir obligé de le trouver responsable parce qu'il a pu parce qu'il a été acquitté au criminel et parce qu'il n'a pas été poursuivi
au civil.
Sa cause est vraiment unique. Là, on prend pas une cause pour rattraper quelque chose qu'on a échappé plus tard. Ça, on va voir ça va être quoi sa déclaration, ça va être quoi son témoignage. On va voir qu'est-ce que lui va dire en défense et on va voir qu'est-ce
que... Mais pour vrai, là, ce que tu me dis là, ta dernière phrase, là, que les causes n'interfèrent pas, vous êtes des ninjas. Là. Je comprends que la loi, c'est précis. Pis tout, mais moi, ça m'influencerait tellement. Hey, Walid, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est apprécié.
Hey, je vous en prie, bonne journée.
Bye, Maître Walid Hijazi, avocat criminaliste et notre ami ici dans Debout les comiques depuis plusieurs années déjà.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques.
En Allemagne...
Je suis jaloux, là!
Il y a un nouveau terme qui s'appelle le Impfneid. Impfneid, c'est de la jalousie vaccinale. C'est le fait d'envier ceux et celles qui ont déjà reçu leur dose. Et c'est un terme qui vient d'apparaître dans un magazine qui s'appelle le Stern Magazine, qui est donc un phénomène qui est vraiment tout à fait récent. Ça a été créé pour ce qu'on vit actuellement.
Ben oui.
Et vraiment, c'est littéralement l'envie d'être vacciné, c'est le ressentiment dû au fait que d'autres personnes, ont été vaccinées contre la COVID-19 avant soi-même. Okay. Et ça a été documenté de plus en plus chez les jeunes générations.
Ah oui, hein?
Ouais, parce que comme la majorité des pays sur la planète ont décidé de vacciner les plus vieux,
ouais,
donc ceux qui risquaient le plus de décéder des suites d'avoir contracté la COVID-19, les plus jeunes générations commencent à les jalouser. Commence à dire, hey, moi aussi, je veux passer sous l'aiguille. Moi aussi, là, je veux être éligible à ça. Allô, s'il vous plaît, venez me chercher. Puis je suis jaloux de vous autres.
Je suis persuadé de... Mon fils déteste sa grand-mère maintenant. C'est épouvantable. Je niaise, mais je peux comprendre pour vrai parce que c'était en même temps les plus à risque, là.
Mais évidemment. Mais moi, je vois une différence entre l'envie et la jalousie. Tu peux envier quelque chose. La jalousie, il me semble, ça ronge en dedans. De là à dire que je suis rongée en dedans. Ce que les spécialistes expliquaient, c'est que les gens, depuis le début de la pandémie, ont tellement l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur vie. Ils ont l'impression de pas être capables de décider de ce qu'ils peuvent faire. On peut-tu aller manger au restaurant ou pas? Est-ce qu'on peut aller travailler ou pas? Voir nos amis, notre famille ou pas? Et donc, le fait de faire en sorte que la vaccination soit l'autre affaire qu'on n'est pas capable de déterminer quand ça nous arrive, c'est là que le sentiment de jalousie arriverait. C'est comme si c'est un trop-plein d'émotions négatives, malheureusement.
Moi, j'ai vraiment hâte d'être vacciné, qu'on appelle ma tranche d'âge, puis probablement que ça va être avec tout le monde en même temps, mais quand on voit des cas comme avant hier où il y a des places de libre, puis le monde, ils vont pas, ça me fâche. Là.
Ça, moi aussi.
Ça, fait que c'est pas de la jalousie, mais Colin, c'est go, 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 on y va, là, tu sais.
Les experts qui se prononcent à ce sujet-là sur le site sur lequel je suis disent que la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, c'est sûr que la jalousie, c'est un sentiment qui est négatif quand même, là. Mm-hmm. Mais ils disent que le Impfneid, ça veut dire que les gens ont hâte de se faire vacciner. Fait que dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, il y a 65% des gens qui, dans un sondage fait en Europe, trouvent que le vaccin, c'est le moyen de sortir de la pandémie. Et donc, ils sont favorables au vaccin parce qu'eux autres, ils veulent juste qu'on arrête ça, point final. Mmh. Et donc, les experts disent, s'il y a une certaine jalousie qui se fait là, si ça les motive, les gens, à aller se faire vacciner, au bout du compte,
allons-y,
c'est quelque chose de positif. Mmh. Puis, on va pas nécessairement alimenter la jalousie, bien évidemment, mais on va la laisser là. Mmh. Ça va être correct.
Peut-être que je ressentirais ça si j'avais l'impression que ça sera pas accessible. Mais moi, je le sais qu'on veut que je me fasse vacciner. On veut que le plus de citoyens possible se fassent vacciner. Mm-hmm. Donc, on dirait que cette émotion-là, ce serait comme une émotion de trop. Elle serait vraiment superflue.
J'ai pas le temps, là.
En tout cas, on dirait que ça doit dépendre aussi des pays ou des enjeux dans chaque pays.
Ouais. Mais vous trouvez pas aussi que c'est particulier parce que c'est plutôt rare que les jeunes générations envient les personnes âgées?
Ouais.
D'habitude, c'est les personnes âgées qui envient les jeunes générations. Ah, sont jeunes, ils peuvent encore tout faire. Et là, dans ce cas-ci, c'est complètement l'opposé. En tout cas, je trouve ça cocasse.
Peut-être, effectivement. Merci.
Mais le Impfneid.
Le Impfneid.
Oui. Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
Debout les comiques.
C'est 23.